Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une région située dans un triangle compris entre les deux Dordognes, le département et la rivière, et son affluent l'Isle qui constitue le troisième côté. Il s'agit, vous l'avez deviné, du Libournais viticole, plus connu sous le nom de Rive Droite. Pour nous en parler aujourd'hui, François Surget, œnologue, caviste, producteur. Il nous fera découvrir les terroirs et le cépage dominant de cette région, mais également les grands crus classés de Saint-Émilion et l'inclassable Pétrus. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François.
Bonjour Philippe.
Donc j'ai lu que sur la rive droite il y a Saint-Émilion et que c'était l'une des plus anciennes appellations du Bordelais, avec notamment plus de 1000 châteaux et 5000 hectares de vignes. Est-ce que tu confirmes ?
Ah, complètement. Complètement, je ne peux que confirmer. C'est une appellation qui est quand même très très riche, à la fois par sa situation géographique. Elle se trouve donc au nord de la Dordogne. Et ce qui fait que vous allez vous trouver avec un terroir complètement différent de ce qu'on avait pu voir la dernière fois dans la rive gauche. Parce que là, la rive gauche, c'est assez plat. Alors que là, c'est relativement vallonné et on a une particularité, comme on est un petit peu plus loin de la mer, on se retrouve avec des caves qui sont assez profondes, et dans le calcaire, ce qui fait que c'est quand même plus intéressant que les caves qui sont, les chais en tout cas, qui se trouvent dans la rive gauche.
Par contre, en cépage, on reste sur les mêmes cépages.
Alors, on reste sur les mêmes cépages avec une dominance de Merlot et de Franc, qui est un petit peu plus important. Donc, ce qui est vrai sur la rive gauche ne l'est peut-être pas sur la rive droite, avec des choses complètement différentes. On a des vins avec peut-être un petit peu plus de rondeur et de fraîcheur, entre guillemets. Et Saint-Émilion, ce n'est pas Saint-Émilion tout seul. Parce que Saint-Émilion, ça représente, je crois, 20% de la production à peu près des rouges dans le Bordelais, je crois. Donc c'est vrai que c'est énorme.
Énorme.
C'est énorme. Il y a 8 communes qui ont droit à l'appellation de Saint-Émilion. Et puis vous avez bien sûr les satellites à Saint-Émilion. Mais avant de parler des satellites de Saint-Émilion, je vais vous parler un petit peu de ces terroirs. Parce que les sols sont assez riches, hein, comme je vous disais tout à l'heure, sont surtout très différents. Il y a beaucoup plus de calcaire. Beaucoup plus de calcaire. On a encore des plateaux de graves, bien sûr, tout à fait. Ils sont orientés plutôt vers Pomerol, avec énormément d'argile, calcaire, la silice et quelques bancs ferrugineux. Donc, contrairement à la rive gauche, où il y a énormément de fer dans le sol, là, il y en a un petit peu moins, mais on reste encore avec ce côté ferrugineux très important. Les cépages utilisés, comme tu disais tout à l'heure, bien sûr, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Malbec. Là-bas, on l'appelle le Pressac.
Malbec. Ah bon ?
Oui, c'est le nom qu'on donne au Malbec. Ses caractéristiques, en règle générale, pour l'épicentre de Saint-Émilion, va être le côté grenat foncé, hein, au niveau de sa robe. Les bouquets, ça va être des parfums, un petit peu de feuilles mortes, de truffes quand ça vieillit un petit peu. C'est très généreux, corsé bien sûr et chaleureux, ça va de soi. Comme je vous disais tout à l'heure, avec beaucoup de rondeur. Les signes particuliers, c'est qu'il y a des vieux pieds de Merlot très 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 très, très vieux là-bas. Mais quand je dis vieux pieds, c'est rien de dire, puisqu'on a je crois que les plus vieux pieds de Merlot se trouvent chez Monsieur Vautier, Fabien Vautier, qui est propriétaire du château Ozone. Et il y a une petite parcelle qui est juste au-dessus des chais, qui s'appelle la chapelle d'Ozone. Il y a une chapelle et une petite parcelle où il y a des pieds de Merlot qui ont plus de 100 ans. Donc ces pieds, je les ai vus pour la première fois il y a 30 ans, donc ça fait peut-être 130 ans maintenant.
Quand même.
Oui, c'est parce que ça vieillit en même temps que moi, bien sûr, ça va de soi. Non. En revanche, c'est des vins qui se conservaient très 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 longtemps. On conservait les Saint-Émilion à une époque jusqu'à 30 ans à peu près. En gastronomie, on pouvait y faire un petit peu tout ce qu'on voulait, parce que c'est tellement riche que le bœuf s'y prête bien, le mouton, l'agneau, bien sûr, ça va de soi, les omelettes aux champignons pour l'automne, etc. Et puis, on a des températures de service qui sont assez intéressantes, puisqu'on peut servir ça bien chambré, c'est-à-dire 17-18 degrés, ça donne des vins de bon accompagnement.
Donc, si on revient dans cette appellation au classement, puisqu'elle bénéficie aussi d'un classement.
Alors, juste avant le classement, les satellites.
Bien sûr.
Les satellites, vous en connaissez certainement quelques-uns. Il y a Lussac, Lussac-Saint-Émilion, puis Seguin-Saint-Émilion.
La montagne.
Montagne-Saint-Émilion. En fait, ils portent l'appellation du village plus l'appellation de la ville maîtresse. Excusez-moi. En fait, c'est Lussac-Saint-Émilion. Hein, puis Seguin, Saint-Émilion, Montagne, Saint-Émilion, etc. Il y a des vins que j'aime beaucoup dans cette région. Pour éviter d'y revenir à la fin, je vais vous citer par exemple en Puy Seguin, c'est le Clos des Religieuses. Alors quand vous en trouvez, prenez-en parce que je trouve ça très très bon. C'est la famille Lénier, je crois, qu'en est propriétaire. J'aime beaucoup. J'en parle très peu parce qu'on en voit peu sur le marché. Après, donc à Montagne, vous avez la famille Tapon qui fait des vins très sympas avec le château Gaimoulin notamment et le château des Moines. Le château des Moines qui se trouve aussi sur la commune de Montagne. Et à Lussac-Saint-Émilion, j'ai quelques connaissances là-bas aussi avec la famille Rivière qui possède le château Lussac. Alors, Lussac, c'est le château Opica, donc qui est sur l'appellation Lussac-Saint-Émilion. J'aime bien tout ce qu'ils font.
D'accord.
J'aime bien. Ouais. Voilà.
Et le Clos des Religieuses, il y en a un peu parce que c'est une petite production.
C'est une petite propriété et je ne connais pas exactement toutes ces filières qu'il a pour passer ses vins.
D'accord.
Mais par contre, j'aimerais en avoir plus souvent.
D'accord.
Parce que c'est vraiment toujours
de bonne qualité, mais difficile à trouver.
Oui, c'est toujours. Le mieux, c'est de les appeler directement et de leur demander où ils en ont vendu.
D'accord. Ouais. Très bien.
Alors, pour en revenir, donc bien sûr, au fameux Grand Cru classé de Saint-Émilion, puisque là, on a vu les satellites, mais les premiers Grands Crus classés de Saint-Émilion, c'est complètement différent du classement de la rive gauche. On n'est pas en 1855, il a fallu attendre donc plutôt 1959 pour avoir les classements. Donc là, les classements de Saint-Émilion, ils sont complètement différents. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus moderne. On sent qu'il s'est passé beaucoup de temps, parce que c'est beaucoup plus moderne dans son fonctionnement. Tellement plus moderne que là, contrairement à la rive gauche, vous pouvez perdre votre titre de Grand Cru classé. Donc c'est quand même...
Le classement est révisé tous les 10 ans, je crois.
Tous les 10 ans, tout à fait, et ça crée des conflits à chaque fois. C'est normal, hein. Je veux dire, vous êtes classé premier Grand Cru classé, et puis dans 10 ans, on vous l'enlève, vous n'allez pas être content. Mais est-ce que vous avez fait le travail qu'il fallait? Après, ça, c'est autre chose.
Donc le premier classement date de 1954, c'est ça?
Ça a commencé à partir de 54, définitivement, je crois que ça a été soldé en 59. Et on a toutes ces appellations-là qui ont été classées, c'est-à-dire premier Grand Cru classé. Il n'y a pas de deuxième, ni de troisième, ni de quatrième. En revanche, les premiers Grands Crus classés peuvent perdre leur classement et les Grands Crus classés aussi.
Par contre, il y a des Grands Crus A et des Grands Crus B.
Oui, tout à fait. Alors, fallait bien se démarquer un petit peu. Hein. Dans les Grands Crus A, vous les connaissez. Hein.
Ozone,
la famille Vautier. D'ailleurs, s'il m'écoute, un petit bonjour.
Et puis le deuxième, c'est Cheval Blanc.
Et Cheval Blanc, qui est quand même aussi très, très important.
Propriété de Bernard Arnault aujourd'hui.
Oui, tous ces grands châteaux sont passés dans des grandes mains, exactement. Il y a eu énormément d'investissements en immobilier et en, comment dirais-je, à la fois même aussi en fermage. Hein, c'est-à-dire qu'un terrain, terrain de fermage... coûte beaucoup d'argent dans ces régions. Je vous parle pas du prix des vignes. Voilà, donc le classement, il est très différent. Donc, on va pas perdre de vue qu'il y a les premiers grands crus classés Saint-Émilion, les premiers crus classés Saint-Émilion et les grands crus Saint-Émilion. Mm-hmm. D'accord ? Et après, vous passez en appellation Saint-Émilion. Donc, c'est clair. Pour les gens qui nous écoutent où c'est vraiment pas clair, pour une bouteille de Saint-Émilion classique, sur l'étiquette, vous aurez appellation Saint-Émilion contrôlée. Mmh. D'accord. Donc pour
l'AOC.
L'AOC, exactement, ou l'AOP, donc en production, pour changer un petit peu. Mais on reste sur la France. En France, on a le droit encore de dire donc AOC, c'est-à-dire appellation d'origine contrôlée. C'est au niveau de l'Europe, qui disent aujourd'hui AOP, appellation d'origine protégée.
Hein. Mmh.
Donc tous ces vins aujourd'hui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, perdre leur classement. En revanche, ça crée des conflits. À chaque fois.
Mais du coup, cette révision tous les 10 ans se fait à travers un comité de dégustation ?
Comité de dégustation principalement.
Qui est composé de
propriétaires.
D'accord.
De gens comme moi aussi.
Des experts donc.
Oui. J'aime pas trop ce mot parce qu'aujourd'hui, on l'entend même dans l'automobile quand vous genre change un pneu. C'est-à-dire que quand on change un pneu, c'est un expert. Donc moi, je suis un caviste. Hein.
D'accord.
Je suis œnologue de mon petit état.
Donc dégustation à l'aveugle et puis on note.
Dégustation à l'aveugle, vous notez, c'est sélectionné de cette façon, tout à fait. Il faut y passer tous les 10 ans. C'est quand même beaucoup plus moderne que celui de 1855.
Claire.
C'est vrai que c'est... Là, les deux pieds dans le sabot et dans le béton, pour ceux qui sont en 1855, c'est classe, quoi. Par contre, pour ceux qui sont... Après, en Saint-Émilion.
Du coup,
notamment.
Ça crée de l'émulation. Puisqu'on est obligé, c'est un peu comme les étoiles du Michelin, on est obligé de se remettre en cause.
Oui, tout à fait. On se
au
bat.
Moins tous les 10 ans.
On se bat. Chaque producteur va se battre pour garder son titre, voire l'améliorer. Donc, ça, d'où le fameux groupe A et groupe B.
Alors, groupe B, on n'a pas cité de propriété, mais il y en a de fameux. Château Figeac, La Gaffelière, Château Pavie, Château
Galère. La Gaffelière, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec mon épouse, et je dis, la prochaine fois que je vais à Saint-Émilion, il faut que j'aille absolument au château de La Gaffelière, tout simplement parce que je suis un amoureux fou de moto et de voiture, c'est-à-dire de moteur, et... j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'ils avaient une très belle collection de Bugatti.
Et dans les grands crus, donc en dehors du A et du B, donc il y en a 63, j'en ai noté 63, et donc il y a des noms quand même assez connus comme l'Angélus, Château d'Assaut, la Tour Figeac, Château Soutard, etc., etc.
Tout à fait. Tous ces gens-là sont susceptibles de passer dans le groupe A. D'accord. Donc le groupe A, là par contre, c'est quand même des dégustations qui sont très 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 pointues.
Donc si tu es grand cru, tu peux, t'es pas obligé de, tu passes pas au groupe B puis groupe A, tu peux passer directement au groupe A.
Passer au groupe A aujourd'hui, je crois que c'est impossible.
D'accord.
Il va falloir passer par B, je pense.
D'accord.
Il va falloir passer par B.
Donc un Saint-Émilion, on va le déguster bien entendu tel qu'il est, mais on l'accompagne avec quoi?
Le Saint-Émilion, on va privilégier en fait des plats d'hiver. Je pense que des plats d'hiver, vous faites des ragoûts, ce genre de choses. Ragoût, le mot ragoût, moi j'aime pas trop, ça fait assez plat pour chien. En revanche, des navarins. Le navarin, je trouve que c'est plus adapté. Tous ces plats en sauce qu'on va pouvoir préparer à l'automne, à l'hiver, mais aussi, pourquoi pas, au printemps, prendre des Saint-Émilion un petit peu plus jeunes, puis en profiter pour faire des dégustations de sa cave. J'arrêterai pas de le dire. Dégustez les vins de votre cave, parce qu'il y a quelqu'un qui va les déguster à votre place un jour.
Ça, c'est clair.
Voilà.
C'est clair.
Moi, je veux boire toutes mes bouteilles avant de mourir.
Donc ça, c'est pour les Saint-Émilion. On va aller un petit peu plus...
sur Pomerol.
Si c'est encore des choses à dire sur Saint-Émilion, on va aller un petit peu plus au nord-ouest.
Sur Fronsac.
Pour parler Fronsac ou Pomerol, comme tu veux.
On va parler sur Fronsac. Fronsac, ce que je peux en dire sur Fronsac, j'adore cette appellation qui est relativement rare, je trouve, sur nos étals. On n'en voit pas assez. Je ne sais pas où ils vont, tous ces vins, mais les canons de Fronsac sont d'une qualité remarquable. Il n'y a pas de classement pour ces vins, qu'on soit bien d'accord. En revanche, il y a des qualités tout à fait exceptionnelles. Il faut quand même savoir que les gens qui étaient dans la région de Pauillac, dans la région de Saint-Estèphe, allaient chercher leur Cabernet Sauvignon, bien avant le classement 1855, pour faire leur vin à Fronsac. Ça veut quand même dire qu'à Fronsac, vous avez quand même des racines qui sont quand même de très grande qualité. Voilà pour Fronsac. J'irai pas plus loin parce que j'aimerais vous parler de Pomerol sans trop tarder parce que je veux pas non plus prendre sur mon temps.
Alors Pomerol, forcément quand on parle Pomerol, on pense à Château Pétrus.
Oui, ouais, alors on dit pas Château Pétrus, je crois qu'on dit pas ça comme ça, on dit Pétrus tout simplement. Pétrus tout court. Quand vous êtes là-bas, vous allez être surpris parce que vous avez un plateau qui s'appelle Pétrus et sur ce plateau, il est d'une très très grande qualité, c'est vrai, un gros plateau calcaire qui est très imposant et on va retrouver tous les grands de Pomerol. En revanche, quel désastre de ne pas avoir classé les Pomerol, parce que là, ils auraient fait un classement extraordinaire. Tous les Pomerol sont de très grande qualité. Aujourd'hui, tous les Pomerol, ça se voit par rapport à leur prix, au prix d'échange. On voit bien que les Pomerol sont très chers sur le marché. C'est parce que tout simplement, c'est que des grands vins. Ce n'est que des grands vins. Pour trouver les prix de Pomerol il y a une quinzaine d'années, il faut aller plutôt sur la lande de Pomerol, un petit peu plus bas. On va sur Néac, par exemple, avec des vins qui seront aussi bien ronds, parce qu'on utilise le Merlot, donc à fort pourcentage. Et ce qui fait que ça donne beaucoup de rondeur dans ces vins. Mais le plateau où se trouve Pétrus, vous avez un château qui est certainement, je peux pas dire un de mes préférés, mais peut-être que si, quand même. C'est chez le château Gazin. J'adore ce château. J'adore ce domaine. Il est, mais à chaque fois, je tombe amoureux de ces vins, même d'année en année, puisque je suis un gros acheteur en primeur et j'achète toujours du gazin pour moi perso et aussi pour mes clients, bien sûr, ça va de soi. Mais toujours, moi, je me mets quelques bouteilles de côté parce que j'adore ce château.
Parce que le Pétrus est devenu quand même très, très, très cher.
Inabordable.
Plusieurs milliers d'euros.
On ne peut pas mettre 3000 balles dans une bouteille comme ça. Il faut pouvoir, quoi.
J'ai vu 5000 euros là sur du Pétrus de 2010.
Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Après, c'est un monde de spéculateurs. C'est comme les tableaux. Il y a des tableaux à 10 000, il y a des tableaux à 5 000, il y a des tableaux à 100 000. Voilà, exactement. C'est l'offre et la demande. Ceci dit, vous avez quand même sur le plateau des vins équivalents qui valent beaucoup moins cher. Vous prenez Église de Clinet, Petite Église, tous ces vins qui sont sur le plateau sont d'une qualité remarquable. Gazin est d'une qualité remarquable. Pétrus, c'est quelque chose de différent. C'est purement spéculatif. Attention, c'est vachement concentré. C'est très concentré. Donc c'est vrai que quand on fait la dégustation d'un Pétrus, c'est quelque chose d'assez unique. Même si en dégustation à l'aveugle, quelquefois, on a tendance à servir, quand on fait une dégustation de Pétrus à l'aveugle, on est assez impressionné.
Comment on va reconnaître d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la caractéristique du Pétrus à l'aveugle?
La rondeur, le côté violacé et le parfum de violette et de truffe qui se confondent dans la dégustation, déjà dans le nez. Et puis de visu, c'est un vin qui est pourpre, qui a des reflets magnifiques et qui donne en fait cet effluve de truffe et de violette mélangée avec ses capacités à vous remplir les narines et à vous remplir la bouche. C'est ample et ça enduit vraiment la bouche, ouais. C'est vrai que, mais vous avez d'autres vins qui vous donnent aussi ces sensations à côté, hein. Je vous parlais de Gazin, je vous parlais de Clinet, tous ces vins. C'est sensation, non pas Pétrus, mais je dirais Pomerol, tout simplement. Les Pomerol sont d'une qualité remarquable. Et c'est une des appellations où il n'y a pratiquement plus de particuliers, quoi. Tout a été acheté par des grandes maisons. Vous en avez cité, enfin, tu en as cité tout à l'heure, des grands, les groupes d'assurance, des choses comme ça. Il y a très, très, très peu de petites propriétés aujourd'hui. Très, très, très peu. Je ne sais pas si j'en ai...
C'est pour ça qu'on a du mal, d'ailleurs, à en trouver sur le marché, finalement.
On en trouve peu, parce que c'est élitiste.
Très élitiste.
C'est très élitiste.
Beaucoup partent à l'export, en plus, j'imagine.
Bien sûr, ça va de soi. S'il y a spéculation, il y a export, hein. Ça va de soi. Ceci dit, il y a un monsieur qui fait un vin là-bas qui s'appelle Château L'Écuyer, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Monsieur Petit. J'aime beaucoup ce vin. Il a des qualités assez, assez exceptionnelles. Ça reste une propriété encore, c'est ce qui est déjà bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme appellation? Donc sur ces vins-là, vous avez le Château Tournefeuille, mais là vous êtes sur la lande de Pomerol.
La lande de Pomerol,
Château Tournefeuille, Tournefeuille, c'est très sympa.
Très bien.
Très 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 sympa, ça vient de Néac. Et vous en avez un autre qui appartient à la famille Tapon aussi, à Nicole Tapon, qui est quelqu'un que je connais bien, qui se reconnaîtra aussi bien sûr, ça va de soi. Le monde du vin étant très petit, ça s'appelle la Croix-Saint-Jean.
La Croix-Saint-Jean,
la lande de Pomerol, elle le fait, mais d'une façon remarquable. Son père était exceptionnel, j'ai bien connu, et avait tout donné à Nicole, sa façon de travailler, sa façon d'élaborer les vins, avec une culture très naturelle. Elle n'a pas attendu qu'on dise des vins biologiques, elle les faisait déjà depuis longtemps. Et avec des gens comme ça, on aime les vins, comme le Château des Moines, par exemple, qui est en Montagne-Saint-Émilion, quoi.
Donc, en conclusion, sur la rive droite, plein de superbes pépites, Saint-Émilion, Pomerol, mais aussi d'autres appellations dont on n'a pas encore parlé.
Tout à fait. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les appellations qui restent, parce que je pense que ça va faire l'objet d'un autre podcast plus tard. Mais il ne faut surtout pas oublier le fameux groupe des Côtes, avec les Blaye, les Bourgs, les Gazons de Fonsac, j'aurais pu m'étaler un petit peu plus, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à en dire. Voilà, en tout cas, ça a été un réel plaisir de parler de cette région.
Merci François, et à très bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez retrouver ce 8e épisode de Vin Divin sur toutes les plateformes de podcast et nous faire part de vos commentaires. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le créditer de 5 étoiles. La semaine prochaine, nous resterons dans le Bordelais coincé entre deux mers, à savoir la Dordogne et la Garonne. Il sera question de blanc sec, mais pas que. D'ici là, portez-vous bien.